Bonjour les amis, on a Vincent Jamblin qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre, bonjour
alors,
tout le monde.
Bonjour, on te voit traîner dans les couloirs ici du Bessy régulièrement, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors qui es-tu d'abord toi ?
Eh bien, je suis. Je vais parler un petit peu d'histoire professionnelle et de formation. Je suis ingénieur commercial à la base. J'ai travaillé plusieurs années dans différentes industries, la sidérurgie,
le papier. On ne dit jamais
quand
on parle des industries, on ne la cite jamais, comme si on avait honte.
Non, non, mais j'étais en train de dire, sidérurgie, papier.
Oui, mais de quelle société
Les noms, oui. Coqueril-Sambre.
Bah voilà.
Début de ma carrière, avant que Coqueril ne disparaisse. Corps et biens,
avalé par usine. Croix de Vignes, du coup, tu nous viens de la cité radieuse, c'est ça ?
L'Ardente.
Ouais, la cité Ardente, comme on dit, mais une ville que j'adore, une principauté.
Exactement.
Une ville spéciale où on fête davantage le 14 juillet que le 21 juillet, par
effectivement,
exemple.
Effectivement, et la sidérurgie était à proprement parler dans mon jardin.
Donc voilà, et on est né là-bas, voilà, cette sidérurgie, on va dire, soit passée encore un peu du présent, mais du passé. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à changer, alors ?
Eh bien. J'ai eu, comme disent nos amis anglo-saxons, mon épiphanie, en quelque sorte.
C'est joli, ça.
C'est joli. Je me suis rendu compte que les questions environnementales et de durabilité étaient, au fond, assez importantes pour moi. Et donc, je me suis instruit d'abord.
Quand on vient à la sidérurgie, encore plus.
Exactement. Mais j'y suis revenu en partie pour ces raisons-là aussi.
D'accord.
Puis est arrivée une perturbation assez importante en 2008 que tout le monde a connue et resitue un petit peu.
Une petite crise économique. On rappelle, on a sauvé les banques en un week-end. Et donc voilà, c'est une grosse crise économique.
Voilà. Et donc, je me suis formé d'abord de manière autodidacte. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Alors, j'ai fait un master en sciences de l'environnement et avec une spécialisation dans le domaine de l'énergie, et puis est arrivée cette crise de 2008 qui a perturbé les travaux, les chantiers que j'avais commencé à mettre en place, notamment avec des anciens collègues de la sidérurgie.
Et alors, donc, quand on shift, enfin le shift, parfois il est lié à un accident, ou en tous les cas, les circonstances qui vont autour, c'était compliqué comme virage, ou bien c'était évident ?
C'était évident. J'avais un passé plutôt... on l'associe à un passé plutôt financier, compta, opérationnel, processus, organisation, et puis voilà, moi je m'étais lassé de ça et j'ai trouvé finalement quelque chose qui était un vrai moteur pour moi.
Voilà, je ne sais pas, quand on fait un choix comme ça, c'est un choix personnel, il faut prendre la famille, si tu as des familles, des enfants, comment ça se passe alors ?
Eh bien, c'est un petit peu un changement qui est intervenu dans l'esprit de tout le monde. Donc à cette époque-là, les enfants, de toute façon, étaient tout petits, donc la question ne se posait pas de cet ordre-là, mais ma compagne était dans le même état d'esprit.
Plus souvent ici au Bessy, qu'est-ce que tu viens chercher au Bessy, par exemple ?
Je vais chercher plusieurs choses. J'ai découvert le Bessy il y a quelques mois, un petit peu par hasard, au détour d'une conférence qui était co-organisée ici. Et donc, j'ai rencontré toute une série de personnes, dont un monsieur qui s'occupe de radio, Pierre Chaud, comment encore ?
Ah, ça c'est moi, c'est incroyable.
Ah oui, c'est toi. Ouais. Et donc j'ai rencontré à la fois un certain nombre de personnes franchement sympathiques, une organisation qui a clairement une ambition et une motivation d'aider les entrepreneurs, et un environnement qui permet assez facilement de faire des contacts. Alors j'y ai trouvé de nouveaux amis, des nouveaux partenaires et aussi quelques nouveaux clients.
Voilà, je rappelle qu'au fait de la radio, il n'a pas de pistolet sur la tempe, il a parlé en totale liberté. Donc maintenant, ton avis, c'est de dire qu'à un moment, les sociétés qui n'ont pas de vrai modèle économique sont en danger, en fait.
Oui, enfin, donc je travaille dans le domaine de... je vais utiliser quelques buzzwords pour dire ce que je fais. Donc, j'aide les entreprises à intégrer la sustainability dans leur stratégie.
Sustainability, pour ceux qui ne sauraient toujours pas.
Développement durable.
Voilà, donc...
Je préfère utiliser le terme anglais, même si c'est embêtant de le mettre dans une phrase française, mais il est
peut-être un peu plus approprié. Il y a des gens qui l'entendent souvent, mais ils n'ont jamais pris le réflexe d'apprendre ce que ça voulait dire.
Donc, intégrer le développement durable dans la stratégie de l'entreprise pour la rendre plus robuste, plus résiliente et assurer sa rentabilité à long terme.
Voilà, et puis c'est une obligation avec les nouvelles mesures ESG, quelque part. C'est en tout cas une recommandation si vous voulez continuer à travailler avec certains clients, c'est ça aussi.
Effectivement.
Donc
effectivement.
Voilà, l'ESG, c'est environnement, sociabilité et puis gouvernance, c'est ça ?
Exactement.
Donc voilà, donc c'est un travail important, tout le monde en prend conscience maintenant. Mm-hmm. On l'a vu quand l'électricité coûtait cher, on se dit « Ouïa, quelles sont les solutions ?» Donc il y a eu quelques signaux qui obligent les gens à maintenant à s'occuper de ce qu'ils dépensent, ils ne savent pas toujours, d'une part, et c'est là que tu les aides, alors ?
Oui, exactement. Mais la première chose à faire, donc moi j'ai une approche, alors je vais encore remettre quelques buzzwords, hein, j'ai une approche assez radicale de la chose, mais radicale dans différents sens du terme, le premier étant étymologique, c'est-à-dire s'intéresser à la racine des choses. Mon but, c'est d'aider les entreprises et la société à s'attaquer aux causes des problèmes plutôt qu'à leurs conséquences, et on a tendance à agir sur les conséquences.
Attaquer à la racine, comme on dit.
Exactement.
Donc ça, on l'oublie souvent, et on subit les conséquences, et on agit, on ne prévoit pas. Gouverner, c'est prévoir, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça. Et puis il faut vraiment partir à la base, sans quoi on fait ce qu'on appelle du end of pipe, c'est-à-dire on agit sur les conséquences d'un problème. C'est par exemple le cas de la capture et du stockage de carbone. Ça ne réduit pas les émissions de carbone, ça les cache, ou ça les introduit dans des processus qui eux aussi sont complexes et mobilisateurs de ressources.
Vincent, on disait à l'époque que les sociétés qui n'avaient pas d'histoire étaient appelées à mourir. Donc maintenant, il n'y a pas que l'histoire, il faut aussi savoir d'où on vient, comment on va, comment ça marche en fait, hein, c'est ça ?
Oui. Je pars du principe, et c'est souvent vérifié, hein, que les hypothèses sur lesquelles les entreprises travaillent datent pour la plupart du siècle dernier, voire du précédent. Et dans le contexte global dans lequel on se trouve, hein, tous les défis dont tout le monde a connaissance, qui sont liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, à la pollution, à la santé, aux questions sociales et sociétales, les hypothèses sur la base desquelles les entreprises travaillent sont généralement dépassées et les amènent ou les font rester dans un modèle qui n'est plus tout à fait adapté pour faire face à ces risques et à ces défis.
Parce qu'on ne peut pas dire qu'au niveau du climat, il y a les deux extrêmes, hein, les climato-sceptiques et puis les climato-excessifs. Comment trouver la part des choses pour le commun des mortels, l'entrepreneur qui est tout seul dans son bureau disant mais... Où est la vérité, en fait ? Où dois-je aller chercher la vérité ?
Oui, sans oublier que le climat est un sujet un petit peu réducteur et qui, quand on parle d'environnement, c'est celui qui est le plus souvent, auquel on fait le plus souvent appel, mais qui, malgré tout, reste moyennement bien connu. Donc là, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi. Et ce travail sur les hypothèses vise à déterminer si ce qu'on fait, si les services qu'on rend, que ce soit à travers des produits ou à travers des services, on peut le faire d'une manière différente, c'est-à-dire atteindre l'objectif de fonctionnalité, mais par un chemin qui est différent. Ouais, et ça, on ne peut le faire que si on réfléchit à la base.
Un peu la question du why, et puis on voit que l'exemplarité politique, on voit que les COP se poursuivent, mais à couche de souris. Hein, comment faire ? Donc tu les amènes, toi, à poser un autre regard sur leur manière de faire, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça, c'est un changement de perspective. Alors je n'ai pas mentionné le mot parce que dans les buzzwords, il y a celui de l'économie circulaire et l'autre qui est celui de l'innovation. L'économie circulaire, c'est un cadre conceptuel, systémique, qui a pour but d'aider à résoudre ces problèmes.
Systémique, c'est regarder le problème, tout ce qui va autour et un peu ça.
Oui, c'est ça, de manière globale, en étant conscient que les interactions entre les éléments sont au moins aussi importantes et au moins autant d'influence que les éléments eux-mêmes.
Voilà, les jeunes en prennent conscience, mais on dirait que les anciens, pour ne pas dire les vieux, sont moins conscients, ça.
Mais disons qu'on se facilite tous la vie en réduisant la complexité du monde pour essayer de, enfin, pour avoir l'impression qu'on arrive à avoir une maîtrise dessus, mais résoudre des problèmes locaux souvent mène à la génération de problèmes globaux. Et donc, si on ne regarde pas les choses de manière complète et en intégrant les interactions, alors on passe à côté des bases du problème.
On retourne aussi un signe global, acte local, c'est un peu ça. Hein, donc,
Oui, enfin, même si tu agis localement, tu dois réfléchir à ton écosystème ou au système local dans lequel tu t'inscris.
Très bien. Si cette interview vous a intéressé, où est-ce qu'on peut te retrouver, Vincent ?
J'ai un site internet qui décrit ce que je fais, donc ma vision, ma philosophie et mon approche. Ça s'appelle sereus.be, je l'appelle sereus.be.
Sereus qui veut dire quoi ?
Et pour l'anecdote, évidemment, le sereus est un cactus, donc je l'ai trouvé comme un symbole particulièrement pertinent de ce que je m'efforce de faire.
Ça pousse partout. Avec très peu d'eau, et ça vit presque en autosuffisance.
Exactement, c'est capable de vivre, parce que j'allais dire survivre, mais non, c'est capable de vivre dans des environnements hostiles, avec en, en, en autonomie, en utilisant le plus efficacement possible les peu de ressources qui sont disponibles.
Dans la vie, il y a des cactus, et bien si vous aimez les cactus, allez voir. Hein. Vincent Jeanblin, rappelle-nous le site, hein, comme ça il faut...
Cereus.be, Cereus.
Sinon, vous tapez sur les réseaux sociaux LinkedIn, hein, Vincent Jeanblin, ouais. Et ça va vous aider à aller voir plus loin à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire votre société. Merci Vincent.
Merci Pierre.